un collège dans lequel la médiation a été mise en place. Edith Tartar-Godet, qui est une psychologue clinicienne, psychosociologue. Bernard Gaillard, qui est un directeur master clinique criminologique et victimologique. Hein? Marie-Danielle Pierlet, qui est militante pédagogique. Donc, ça donne un aperçu très court, ce sont des flashs. Ce que je voudrais vous dire, c'est que notre formation a plusieurs particularités. D'abord, ces adultes que nous formons, nous allons les faire passer par toutes les phases par lesquelles ils vont faire passer les jeunes après. Comme ça, ils sauront ce que c'est. Alors évidemment, on adapte, hein, quand on a un questionnaire, on ne leur donne pas à remplir un questionnaire pour enfants ou pour jeunes, mais un questionnaire pour adultes. Mais c'est une méthode qui est très ludique, très aérée, avec des activités qui changent beaucoup. La particularité aussi, c'est que pour arriver à une formation à la médiation, on va passer d'abord par tout un regard sur soi, et par toute une formation psychosociologique qui va aider les jeunes à mieux se connaître. Alors, je vais, parce que souvent, vous savez, les formations à la médiation, on aborde tout de suite la médiation. Et là, on va s'appuyer sur tout ce qui aurait été fait en amont. Alors, je vais vous donner les 8 points qu'on utilise, enfin, qui sont nos bases. Et même avant tout les 4 principes que l'on a dans l'association, qu'on donne chaque fois qu'on a une formation d'adulte, qu'on donne aussi aux jeunes. Le premier point, c'est la liberté de s'investir. Peut-être si vous avez fait des formations, vous êtes habitué à ça, quand on suit une formation, il y a peut-être des moments où on vous demande des choses qui vous semblent, non, on n'a pas envie de le faire, quoi. On est libre. On peut ne pas s'investir. Alors ça, c'est, je ne vous le cacherai pas, à manipuler avec précaution avec les jeunes. Parce que si on dit à des petits CM2, vous êtes libre de ne pas vous investir, pour rigoler, rien que pour ça, ils ne vont pas s'investir. Quoi. Donc, on sait que quand il y a quelque chose, on sent que là, ils ne peuvent pas, on va tout de suite leur dire, écoute, c'est pas grave. Avec des lycéens, on peut le dire, on peut s'expliquer avec eux. Évidemment avec les adultes aussi. Ensuite, il y a la confidentialité. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire ensemble, tout ce qu'on va découvrir ensemble, ça reste entre nous. On ne va pas, sitôt qu'on sort, aller dire à un copain, tu sais, machin, il a dit ça, tu te rends compte? Non. Parce que sinon, on ne peut plus avoir de confiance, on ne peut plus avancer ensemble. Ça, ils le comprennent très bien aussi. Et on précise chaque fois que l'animateur, bien entendu, est tenu aussi à la confidentialité. Et ensuite, le parler en jeu, c'est-à-dire que ce qu'on va faire dans ces formations, on va parler de soi, on va dire je, et on ne va pas dire l'autre. Les jeunes, vous savez, quand on leur demande, il y a un volontaire, oh ben lui, non, là, c'est pas la règle, on parle en jeu et on parle de soi. Et la dernière chose, c'est que c'est le non-jugement, c'est-à-dire qu'on est dans un espace, là, on n'est pas là pour se juger les uns les autres, donc on va faire très attention à ça. Et c'est pareil, ce n'est pas forcément facile. Hein. Quand on demande à des jeunes d'observer quelque chose, par exemple, d'observer des camarades en train de faire quelque chose, ils vont vite dire, ah ben celui-là parlait trop vite. Ah ben non, trop vite, ça y est, c'est un jugement. Il parlait vite, c'est une constatation. Il parlait trop vite, ça va trop loin déjà. Alors, rapidement, je vous passe les 8 points. Peut-être après, il y aura des questions sur tel ou tel point, mais c'est pour que vous ayez une idée du fil conducteur qu'on a. Donc, on va passer par différentes étapes, et d'abord, une étape sur la connaissance de soi. Donc, on va essayer d'aider les jeunes à mieux se connaître. À mieux se connaître, à mieux connaître les autres aussi, évidemment, ça va aller ensemble. Mieux se connaître, ça veut dire quelquefois mettre des mots, par exemple, sur ses propres sentiments. Comment je me sens, et on va les aider à ça, ben, c'est pas, ils ne sont pas habitués à ça, pas du tout. Hein. Mais mettre des mots sur un sentiment, ben, très vite, ça va aider à ce que, finalement, ce sentiment, ben, on le maîtrise mieux. Ensuite, on va travailler aussi avec eux, on va leur faire découvrir leurs besoins. de quoi j'ai besoin pour être bien. On va beaucoup travailler avec eux sur les besoins. Et puis les valeurs. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs qui ont de l'importance pour moi? Et donc pour le copain, etc. Et ça, c'est quelque chose, moi je me souviens, j'ai beaucoup travaillé avec des élèves de seconde, et la joie de ces jeunes qui venaient me dire après, mais je ne savais pas que j'avais autant de valeurs, moi. C'est trop moins important ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était assez fantastique. Voilà. Bon. Donc, la connaissance de soi. Après ça, il va y avoir toute une remarque sur la violence. La violence autour d'eux, dans l'établissement, en dehors de l'établissement, en eux. Donc on va les aider à découvrir ça, à faire des petites enquêtes, à repérer les choses sur la violence. Troisième point, on va aborder comment on fait finalement dans une situation de conflit. Comment je réagis dans une situation de conflit. Alors ça, ce sera à l'aide d'un test. Et on va les aider à repérer différentes façons de réagir et à voir ce que ça entraîne. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'est jamais dans le jugement. Donc c'est pas pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est pas du tout ça le propos. Le propos, c'est si je réagis comme ça, qu'est-ce que ça entraîne? Pourquoi je peux réagir comme ça dans telle ou telle situation? Si je réagis comme ça tout le temps, qu'est-ce que ça va donner? Et qu'est-ce que ça va donner dans ma relation à l'autre? Alors ensuite, il y a toute une partie aussi où on va prendre en compte la différence de l'autre. On peut être différents les uns des autres et on va constater que de temps en temps, on est différent, on n'a pas le même avis et puis tout compte fait, on peut avoir raison tous les deux. Ça c'est aussi une étape très importante et qu'ils aiment beaucoup d'ailleurs, en général. Ensuite, on a tout un volet autour de la communication. La communication... avec un travail sur l'écoute. Qu'est-ce que c'est? On a des exercices là-dessus qui sont très révélateurs. Aussi sur la transformation, c'est-à-dire, je te dis quelque chose et puis toi, tu vas le répéter à un autre, etc. Vous voyez, on a un exercice comme ça, qu'on appelle le bouche à oreille. J'aime autant vous dire que le dixième, il n'a plus du tout la même histoire que le premier. C'est très drôle, tout le monde aime ça, les adultes aussi quand on fait les formations, parce qu'on fait ça avec eux aussi. Et voilà, comment ça se déforme. Et puis tout un travail aussi dans ce registre de la communication sur la rumeur. Qu'est-ce que c'est qu'une rumeur? Comment naît une rumeur? Et quand je reçois une rumeur, quand on me la donne, qu'est-ce que j'en fais? Je la fais continuer en rajoutant un peu encore quelque chose, ou j'essaie de savoir, ou j'essaie de stopper là et de comprendre, etc. Alors, autre point, la prise de recul, tout un travail pour faire attention à ne pas confondre la personne et l'objet du conflit. C'est pas la même chose. L'objet du conflit ne colle pas à la personne. Quelqu'un qui a commis un vol une fois, c'est pas un voleur. Jean-Marie Petitclerc, il insiste beaucoup là-dessus. Faire attention, mais pas. Bon. Et bien là, dans nos relations, très souvent, quand on est en conflit avec quelqu'un, tout d'un coup, c'est un tout, quoi. Et on rejette la personne en même temps que l'objet du conflit. Donc on travaille aussi beaucoup là-dessus avec eux. Il y a un autre volet qui va se disperser un petit peu partout, c'est ce qu'on appelle la créativité. C'est-à-dire qu'on va essayer de les aider à trouver des tas d'idées. Ça va servir beaucoup dans la médiation. Être très réactif, alors avec des tas de jeux très ludiques. Alors ça, vous voyez, c'est tout ça se fait l'ensemble de la première partie qui va être la découverte du jeune et des autres, le vivre ensemble en fait. Et à ce moment-là, on va proposer là à ceux qui sont volontaires de poursuivre pour aller jusqu'à la préparation à la médiation. Et on va avoir d'autres séances avec ceux-là qui vont les préparer à la médiation. Alors beaucoup de jeux de rôle et beaucoup d'apprentissage de ce que c'est que la médiation en s'appuyant complètement sur tout le travail, tout le parcours qui a été fait avant. Voilà. Alors éventuellement, il y aura peut-être des questions qui viendront tout à l'heure sur les étapes de la médiation, en sachant qu'on utilise comme étape de la médiation ce qui est utilisé un peu partout. C'est-à-dire qu'une médiation, que ce soit une médiation pénale, une médiation entre... Enfin, c'est toujours les mêmes étapes. Hein. Et ça, voilà.
Je vais passer maintenant la parole à Dany Allaire, qui représente, je vous le rappelle, le mouvement de la paix. Là, nous passons quand même à une préoccupation concernant la paix qui est d'une dimension, on va dire, nationale, voire internationale. Dany, je vous laisse la parole.
Donc, bonsoir à tous. Le mouvement de la paix est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour s'opposer aux guerres, à l'arme nucléaire et soutenir une forme de relation internationale fondée sur la justice, la démocratie et la coopération entre les peuples. Donc, depuis maintenant 60 ans, nous agissons pour le désarmement, en particulier nucléaire, mais aussi contre la production et le transfert d'armement, pour la réduction des budgets militaires et la reconversion des industries militaires. Nous sommes toujours opposés aux guerres et nous préconisons la résolution politique et pacifiste des conflits. Nous nous élevons contre les interventions militaires et les affrontements armés et nous travaillons à mobiliser l'opinion publique pour faire pression sur les autorités tant nationales qu'internationales et également pour soutenir les acteurs de paix qui agissent au sein des conflits. Nous apportons bien sûr notre soutien à la charte de l'ONU. Mais la paix, autrefois définie comme la simple absence de guerre, est aujourd'hui appréhendée comme un processus dynamique beaucoup plus vaste. En effet, il englobe les relations non violentes, non seulement entre les États, mais aussi entre les individus, entre les groupes sociaux, entre les États et les citoyens, et aussi entre l'être humain et le milieu planétaire. L'ancienne manière de voir le monde, en regardant l'autre comme un ennemi ou un ennemi potentiel, et surtout en affectant nos ressources, tant humanitaires qu'économiques, à l'armement et à la défense militaire, est de plus en plus un obstacle à la coopération internationale qui s'impose désormais pour faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur la sécurité des hommes. C'est pourquoi nous essayons d'agir dans d'autres axes, tels que la mondialisation de la paix et l'émergence d'un monde nouveau, et aussi en défendant une conception globale de la construction de la paix à travers la promotion d'une culture de la paix et l'éducation à la culture de la paix. Donc, dans ce travail de promotion d'une culture de la paix et de la non-violence, nous pensons qu'il faut agir sur l'ensemble des attitudes et comportements, tant individuels que collectifs, pour résoudre sans violence les différends, identifier et éradiquer les causes des violences et des guerres, et comme cela, explorer les conditions donc d'un monde sans guerre ni violence. Donc, ce renouveau de l'action pacifiste s'inscrit dans un mouvement mondial pour promouvoir une culture de la paix, telle qu'elle est définie dans les 8 domaines d'action de la résolution des Nations Unies. Ces 8 domaines, je vais vous les citer sans les développer, c'est le renforcement d'une culture de la paix par l'éducation, la promotion d'un développement durable sur les plans économiques et social, la promotion du respect de tous les droits de l'homme, les mesures visant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, les mesures visant à favoriser la participation à la vie démocratique, les mesures visant à développer la compréhension, la tolérance et la solidarité, les mesures visant à soutenir la communication participative et la libre circulation de l'information et des connaissances, et enfin les mesures visant à promouvoir la paix et la sécurité internationale. Donc cette culture de paix définie ainsi ouvre beaucoup de portes pour l'activité pacifiste et aussi pour développer les actions. Donc c'est sans prétention que nous entendons proposer et partager des initiatives autour de ces 8 points. Et bien sûr, cela que nous retrouvons dans des collectifs nationaux comme les collectifs Proche-Orient ou OTAN Afghanistan. Bien entendu, ces collectifs se conjuguent aussi au niveau de localités. Mais on voit aussi d'autres collectifs qui se développent, comme le collectif Tous Différents, Tous Égaux, qui propose localement, c'est-à-dire sur Tarbes, des actions pour éduquer et lutter contre les discriminations. Il y a aussi des partenaires, notamment avec ATD Quart Monde, pour marquer le 17 octobre, Journée internationale du refus de la misère. Donc dans tout ce développement, je pense qu'il y a aussi des dates qui sont incontournables. Des dates qui amènent un développement de l'activité aux 4 coins de France, et notamment sur notre département. Alors je pense au 6 août. Marquer ce jour par un rassemblement parvis de la mairie à Tarbes, est pour nous l'occasion de faire le lien entre l'horreur vécue par la population lors de l'explosion de la bombe sur Hiroshima et la situation d'aujourd'hui avec plus de 30 000 ogives nucléaires prêtes à l'emploi disséminées par le monde. C'est aussi, pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, la possibilité de participer à la conférence internationale qui se tient à ce moment-là, le 6 août, au Japon. Je pense aussi au 21 septembre, proclamée Journée internationale de la paix par l'ONU en 2001. Cette journée permet de travailler en amont avec toutes les organisations et associations qui le souhaitent. Je sais bien que la paix se conjugue au quotidien, mais avoir une telle journée permet de mettre en place des centaines, des milliers d'actions localement, en France et même dans le monde, qui sont répertoriées, si vous pouvez le voir, sur un site 21septembre.org. Vous avez toute la liste des actions qui sont développées dans le monde. 21 septembre, c'est 2008. Nous avons été présents à Lourdes avec le CCFD, la cité Saint-Pierre, passe ici la ville de Lourdes. Cette année, c'est par un rassemblement à Sousse, place de la Paix, que nous avons marqué cette journée. Et aussi, 21 septembre a été marqué par la mise en place d'un collectif, 21 septembre, à Lourdes, avec les organisations qui avaient été présentes l'an passé. Notre activité se développe aussi au travers de grandes campagnes, nationales ou internationales, comme on le disait tout à l'heure. Actuellement, c'est une pétition pour demander aux députés et sénateurs de ne pas voter le budget de la défense. Elle a récolté plus de 8000 signatures en quelques jours. Il est encore temps d'interpeller nos élus sur ce point. En effet, comment consacrer autant d'argent à la construction de la guerre alors que les besoins vitaux ne sont pas satisfaits? Et si vous me permettez, je vais faire une petite parenthèse par rapport aux chiffres. Le chiffre des dépenses militaires mondiales pour 2008. 1464 milliards de dollars. Ce chiffre est vertigineux. Il est en hausse de 4% par rapport à 2007. À côté de ça, on sait que 20% de cette somme suffirait pour satisfaire les besoins de la planète. 20%. Ces derniers jours, on a entendu la conférence sur la faim. Ils ont demandé, pour éradiquer la faim, 20 milliards par an. Ne sommes-nous pas là face à une criante inégalité? Une deuxième campagne est actuellement en cours. C'est la campagne ICAN, campagne internationale pour l'abolition de l'arme nucléaire. Au niveau de notre pays, elle est développée par 57 organisations sous la forme d'une campagne d'interpellation du président de la République pour que la France soutiennent le modèle de convention d'élimination des armes nucléaires déposé à l'ONU. Et elle est aussi développée par une série d'initiatives décentralisées. Nous voulons qu'elles forment ces initiatives le Tour de France de l'abolition. Alors sur Tarbes, nous avons une réunion demain soir pour justement définir comment conjuguer cette campagne sur notre département. Le but de cette campagne, c'est de recueillir des milliers de signatures et bien sûr de les faire suivre au président, mais aussi de les porter à l'ONU, à New York, en mai 2010, lors de la conférence de révision du TNT. Et nous avons un objectif ambitieux, puisque nous voulons construire une délégation de plus de 100 Français, 100 personnes. Alors, dans tout cela, notre fonctionnement. Alors, bien sûr, nous développons une solidarité internationale active, en partenariat donc avec les acteurs de terrain aux quatre coins du monde. Nous participons aux différents réseaux, notamment au Conseil mondial de la paix, au Bureau international de la paix et à Abolition 2000. Nous sommes aussi constitués donc en comités dans de nombreuses villes, et ces comités animent le débat et la mobilisation donc autour des questions liées au budget, à l'arme nucléaire, mais aussi à la construction de la paix, à la promotion d'une culture de paix. Cela peut se faire seul ou en partenariat avec d'autres forces qui travaillent pour un monde plus juste, plus sûr et plus pacifiste. Ce travail en réseau nous a permis, en 2000, d'envoyer 128 jeunes à l'ONU avec le mouvement de la paix pour porter les signatures recueillies en France sur le manifeste pour la culture de paix et de la non-violence. En août 2005, C'est une délégation de 80 jeunes qui s'est rendue à Hiroshima pour la commémoration du 60e anniversaire du bombardement et pour participer à la troisième rencontre de jeunes qui était là, avec à côté donc de Japonais, d'Européens, d'Asiatiques et d'Américains. Depuis, tous les ans, c'est une délégation qui est présente à Hiroshima et à Nagasaki. Plus près de nous, plus près de Tarn, ce travail en réseau s'est développé et principalement avec les écoles et les associations de souffle. Donc plusieurs travaux ont été réalisés. Un patchwork, que je peux amener, de 6 mètres sur 2. La mise en forme d'un recueil de contes et d'historiettes écrites par les enfants et par les associations. De l'origami, une projection d'un film, Oiseau Bonheur. Et c'est aussi la construction de la vague de la paix que vous avez devant vous, qui demande qu'à grandir. Donc, si vous la voulez, on peut la déplacer et continuer donc à faire cette vague. Mais c'est aussi, cette année, l'intervention par deux fois à la Cité Saint-Pierre sur les mêmes sujets, film Oiseau Bonheur et Vague de la Paix. Agréée Association nationale de jeunesse et d'éducation populaire depuis peu, que nous voulons indépendants et souhaitons rassembler des individus aux opinions philosophiques, religieuses et politiques différentes, mais qui sont en accord sur le fait que les menaces pour la paix et la sécurité des peuples s'appellent misère, pauvreté, chômage, injustice, analphabétisme, ignorance et manque de démocratie. Merci.
Merci, Dany. Nous allons continuer ce petit tour de table avec vous, Gaston. Alors, Gaston, sans ta thèse, nous parlera sans doute de Pax Christi. Mais auparavant, Gaston, même si je sais que vous êtes pudique, vous n'avez pas parlé de votre parcours, de votre histoire, je donne quelques éléments, je vous pose quelques questions, si ça ne vous dérange pas, et puis vous nous ferez part ensuite de ce que vous avez préparé. Gaston, donc vous êtes prêtre, vous venez de ce que l'on appelait autrefois le Zaïre, qu'on appelle maintenant la République démocratique du Congo. Vous avez vécu pleinement un certain nombre de souffrances, de conflits qui ont fait la une de l'actualité. Et j'aimerais quand même que vous nous racontiez très brièvement d'où vous venez, entre guillemets, lorsque vous parlez de conflits et de guerre, de paix, de pardon, de reconstruction. Tous ces mots dans votre bouche prennent un poids différent sans doute que lorsque c'est moi qui les prononce. Le Rwanda, pour vous, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça tient comme place dans votre histoire?
Bonsoir tout le monde. J'espère que je ne vais pas vous endormir. Voilà, pour répondre à sa question, peut-être je vais préférer vous donner la petite historique en brièvement, comme il le souhaite, notre animateur. Voilà, d'abord, je vais vous dire comment je m'appelle et vous comprendrez qu'est-ce que c'est mon histoire. Je m'appelle Gaston, c'est mon nom chrétien. Voilà, vous savez que le christianisme, c'est vous qui nous l'avez apporté. Sinon, on avait une religion à nous traditionnelle. Voilà, donc, pour héritage occidental, je m'appelle Gaston. Et dans mon héritage traditionnel, je m'appelle Uwimana Sendateze. Ça veut dire, Uwimana, ça veut dire fils de Dieu, si je traduis en français. Et Sendateze, ça veut dire celui qui attend. Alors, si je vous donne ce nom, c'est parce que vous verrez partout, si vous tapez quelque part le nom Sendateze ou Gaston, on vous dira que je suis rwandais. Ce nom, c'est de la culture rwandaise. Voilà, c'est pour ça qu'on m'appelle partout, on sait que je suis rwandais, mais je suis zaïrois. Alors, pour ceux qui ont compris comment est la division de l'Afrique en pays, on n'a pas demandé aux Indes ici si vous voulez être de là-bas. Donc, les Belges sont venus, ils ont occupé un territoire. Les Français sont venus, ont occupé un territoire. En 1885, toute l'Europe qui s'est trouvée sur l'Afrique a dû diviser l'Afrique pour savoir qui occupe quoi. Et donc, une partie de l'ancien empire du Rwanda se trouva sur le territoire belge. Et c'est là que je suis né, tous mes parents sont nés là-bas. Mais nous avons la culture rwandaise tout en étant les Aïrois. Si vous voulez une histoire pareille, il suffit d'aller à Strasbourg. Vous comprendrez que à Strasbourg, on se demande s'ils sont allemands, s'ils sont français. C'est la même chose. Voilà. Alors, je suis arrivé ici en 1988. Je venais justement d'Isaïr, spécialement de la ville de Goma, à quelques mètres à la frontière avec le Rwanda, que vous connaissez depuis 1994, avec le grand génocide qui a vraiment massacré, qui a éliminé une ethnie. Et en 1994, avec cette guerre, il se peut que celui qui a fait le massacre, celui qui a fait le génocide, s'est retrouvé vaincu. L'ethnie Hutu, qui voulait éliminer l'ethnie Tutsi, s'est trouvée vaincue et a trouvé refuge au Zaïre, dans la région de Goma. Et comme je vous disais, dans la région de Goma, il y a les deux ethnies aussi, les Hutu et les Tutsi. Et donc, nous qui avons grandi au Zaïre, on n'a pas connu la confrontation entre les ethnies Hutu-Tutsi. Mais quand les Hutus sont arrivés au Zaïre, on s'est trouvé impliqué dans un conflit que nous savions que ça existait, mais bon, voilà, on s'est trouvé dedans. Et voilà que donc les réfugiés étant au Zaïre depuis 1994, et en 1996, il se peut que les Hutus qui étaient au Zaïre voulaient retourner au Rwanda militairement pour récupérer leur pays. Mais de l'autre côté, les Tutsis qui avaient pris le pouvoir s'étaient aussi organisés militairement. Et lorsqu'il a appris que l'ennemi voulait venir les déloger encore une fois, parce que les Hutus demeuraient toujours l'ethnie majoritaire par rapport aux Tutsis, et donc l'armée rwandaise sur le Rwanda a anticipé la guerre qui était en train de se préparer sur le sol du Zaïre pour aller attaquer le Rwanda. Et donc l'armée rwandaise a fomenté une guerre pour venir déloger les réfugiés Hutus qui étaient dans la région de Goma. Mais arrivé sur la région de Goma, comment distinguer un Hutu du Zaïre et un Hutu du Rwanda? Voilà, la différence, elle est là. Bon, la différence pour... Et en sachant aussi que depuis des siècles, ils se sont toujours battus et beaucoup de Tutsis avaient pris place au Zaïre. Et quand ils ont gagné la guerre au Rwanda, les Tutsis ont dû récupérer et ont dû retourner au Rwanda. Et quand ils sont venus attaquer les Hutus qui étaient réfugiés au Zaïre, en premier, on a envoyé ceux qui connaissaient bien le Zaïre. Et c'est ainsi que sur le terrain, on croisait les militaires rwandais, mais avec qui on avait étudié au Zaïre. Alors si vous aviez eu des croches de coque-jambe dans un terrain de foot, ils vous les faisaient payer avec une balle dans la tête. Mais ça, ce n'est pas grave. Ce qui était grave est que l'armée rwandaise avait pour mission d'éliminer, de faire un génocide, si vous voulez. Mais pas sur le Rwanda, mais sur le sol du Zaïre, en éliminant les Hutus qui avaient trouvé refuge au Zaïre. Et il se peut que j'étais au séminaire, je me préparais donc à devenir un jour prêtre. À cause de la guerre, on n'était plus à l'école, on était rentré dans les paroisses. Et quand les Rwandais ont bombardé les camps des réfugiés au Zaïre, le Zaïre étant grand et ayant une grande partie de la forêt, les Hutus, les réfugiés rwandais se sont retrouvés dans les forêts du Zaïre. Or, la région de Goma, c'est une région volcanique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un volcan. Alors, la région volcanique, après le passage de la lave, ces pierres sont très tranchantes. Ça devient donc un terrain très, très mortel, si on, comme les jeunes aiment le dire. Voilà, donc se sont retrouvés dans une forêt. On voit la forêt, mais on ne voit pas les cailloux ou les pierres cachées là-dedans comme des couteaux. Alors, nous connaissant la région, on s'est organisé en prêtre. D'ailleurs, on était aidé par un prêtre d'ici, à Toulouse, qui s'appelle Balas, et quelques séminaristes. Nous sommes allés dans ces forêts avec lui, évidemment habillés comme des prêtres. On s'était déguisé en prêtre comme on était avec un prêtre. Étant donné que chez nous, on respecte beaucoup les prêtres, alors on était dans la forêt. Là, on croisait les militaires rwandais qui étaient à la recherche des réfugiés pour les tuer. Et nous étions à la recherche des réfugiés pour les récupérer et les ramener au HCR. N'est-ce pas le HCR qui les ramenait au Rwanda? C'est ainsi donc qu'on se croisait là-bas avec ces militaires. Et c'est là que j'ai pour la première fois vu les actes de la guerre. Voilà. Ici, on rencontre 2-3 personnes. Et là-bas, on croise tout un tas de personnes. Et là, on croise d'autres charnières. Voilà. Des bébés encore vivants, mais sur leurs parents ou leur maman ou leur papa. Voilà. Des personnes décapitées, des personnes déchiquetées. Voilà. Donc, on s'est trouvé devant cette affaire-là. Alors, comme on était avec un occidental, lui qui faisait le résumé de ce qu'on avait fait, il a un jour pu l'envoyer à ses amis ici. Et les Européens, vous avez des bons journalistes qui s'intéressent à tout, ils sont venus, ils ont voulu vérifier. Alors, ils ont raconté cette histoire dans les journaux. Mais au Rwanda, ils savaient qu'il y avait un groupe de prêtres qui entrent dans la forêt, qui ne peuvent pas éliminer parce qu'ils sont prêtres, mais qu'eux voient ce que ces militaires font, qui brûlent vifs les gens, qui tuent clairement. Alors ils se sont dit, nous savons où ils habitent, et alors c'est facile de les attraper. Mais il se peut qu'avant la guerre du Rwanda, justement, dans ce conflit, les Hutus qui étaient au Zaïre avaient été menacés, et dans les paroisses où on était, on avait sauvé quelques-uns. Et depuis le Kigali, la capitale du Rwanda, où toutes ces choses étaient organisées, ce que nous avons sauvé prêtres, hein, nous qui avons sauvé quelques Tutsis qui étaient déjà des majors ou dans l'armée rwandaise, eux qui étaient sur la base, là où se prennent les décisions, ils ont, heureusement pour nous, ils nous ont avertis, ils ont dépêché des gens pour nous avertir. Si vous ne quittez pas la ville de Goma, c'est fini pour vous. Voilà, c'est comme ça que nous sommes partis, chacun pour soi. Le prêtre étant français, lui, il ne risquait rien. On lui donne seulement 24 heures pour quitter la région. Mais nous, autochtones, c'était la mort. Voilà comment j'ai quitté les Zaïre. Voilà, me faufilant dans un camion de manioc ou de haricots, de pommes de terre, jusqu'à ce que celui qui m'a amené, c'était un frère d'un militaire, il me met dans une forêt, il me dit, à partir d'ici, je ne peux plus aller au-delà, donc tu te débrouilles. Voilà. Et là, je me suis retrouvé en Ouganda. En Ouganda, le Rwanda continue à chercher ce groupe-là. Ils ont su que j'étais en Ouganda. Et comme l'Ouganda aidait le Rwanda, je n'étais pas sur le bon terrain. J'ai dit continuer jusqu'à Nairobi. Et là-bas, ils ont su que j'y étais. Et j'ai dû quitter Nairobi pour aller en Côte d'Ivoire. Et quelques temps après, je me suis retrouvé ici en France. Mais je ne savais pas que j'allais en France. Si je vous raconte l'histoire, vous n'y croirez pas. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai acheté des faux papiers, d'ailleurs que j'ai fabriqué moi-même. Voilà. Et puis on les a donnés à un spécialiste qui les a fignolés. Et finalement, on s'est retrouvé ici. La chance qu'on a eue à cette époque-là, de Abidjan jusqu'à Paris, il n'y avait pas de problème. C'est ainsi que je me suis retrouvé chez vous. Voilà. Donc l'action pour la paix est que là-bas, donc j'ai participé à sauver les gens qui étaient en train de mourir, à éviter la guerre. Alors, arrivé ici, au séminaire, j'étais à Paris et le séminaire de Toulouse m'a invité pour continuer mes études si je le voulais. Et pendant les vacances, on a dû m'envoyer ici à Lourdes pour aider au sanctuaire. Et c'est là au sanctuaire que j'ai pris connaissance de Pax Christi, puisqu'il y a déjà un pavillon ici à Lourdes.
Alors Gaston, parlez-nous de ce mouvement Pax Christi qui est né dans l'après-guerre, 1947 je crois, dans mes souvenirs, de la volonté notamment d'un homme qui est relativement connu dans le sud-ouest, qui est Monseigneur Pierre-Marie Théas. Alors dites-nous, quel est ce mouvement exactement?
Alors, ce que je sais du mouvement Pax Christi est ceci. Pax Christi, c'était un mouvement qui est né justement à l'époque du mouvement pour la paix. Voilà. Mais son objectif, c'était la réconciliation des Allemands et des Français. Voilà. Donc, le Pax Christi est né pour cette cause-là. Et cette cause est partie de cette terre. Donc, Monseigneur Théas était l'évêque de Montauban, je pense. Montauban. Et après, ici à Lourdes. Et comme Lourdes, c'est un lieu de pèlerinage, voilà que tout le monde vient à Lourdes pour prier. Les Allemands venaient en groupe, les Français, vous venez en groupe, mais vous ne pouvez pas vous parler. Ils ne pouvaient pas se parler. Alors Théas et d'autres chrétiens qui étaient par ici, comment continuons à demander aux gens de venir en pèlerinage, prier Dieu, prier Marie, tandis qu'en eux-mêmes, il y a un feu dévorant qui les empêche de communiquer entre eux. C'est ainsi qu'ils ont fait naître quelque chose pour réconcilier les deux peuples. Et une fois les deux peuples sont réconciliés, tous les pèlerins venant du monde entier se trouveront dans un climat d'accueil. Voilà. Alors donc, Passe Christi est parti pour là, la réconciliation des Français et des Allemands. Et comme ce mouvement a eu des succès, il ne s'est pas arrêté que sur la France et l'Allemagne. C'est ainsi qu'il est devenu un mouvement international. On le voit partout dans nos camps de réfugiés à Goma. Il y avait des stands pour Passe Christi. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, évidemment. Mais voilà, c'est un mouvement qui, là où il y a des conflits, là où il y a la haine, il s'invite à aller là-bas pour rappeler aux gens que nous ne sommes pas faits pour nous entremanger, mais que nous sommes faits pour vivre ensemble. Et la belle vie sur cette terre, si on ne se parle pas, ça ne sert à rien, c'est une vie sauvage. Voilà. Donc, dans le mouvement Passe Christi, est née cette volonté de réconcilier les gens, de proposer les dialogues entre les gens, de briser les murs de séparation, peut-être de bâtir les murs de vagues, voilà, pour que la communication soit établie, mais une communication justement qui part de Dieu, parce que c'est Dieu qui est en nous. C'est ainsi que le mouvement lui-même s'est donné le nom de Pace Christi, la paix de Christ, ou la paix en Christ. En bref.
Vous aviez préparé un petit quelque chose, Père Gaston, pour nous expliquer ce que représentait pour vous la paix. Ce qu'était pour vous la paix. Alors, brièvement, vous pourriez nous le dire, qu'est-ce que, au fond de vous, représente la paix, maintenant que vous nous avez expliqué dans quel contexte vous avez grandi.
Alors, quand on m'a appelé pour, justement, venir témoigner ce soir, devant vous, les petits titres qu'on m'a donné, que notre sœur m'a donné par là, c'était « Que faire de concret pour la paix ?» Comment dans la vie, ou avec quels moyens on peut faire la paix. Avec cette expérience que je vous ai racontée brièvement, j'ai compris que la paix ne peut exister que entre les hommes. La paix pour moi, c'est une étape de la vie, et d'ailleurs ce n'est même pas une étape seulement, c'est la vie. La vie sans la paix, ce n'est pas une vie, on est traumatisé. Mais si on est réellement dans la relation avec les autres, voilà pour moi la paix. Ainsi, la paix, je l'appelle la vie. Alors, si la paix est la vie pour moi, alors il me faut vivre cette vie en la vivant en paix pour moi-même et pour les autres. Et ça implique donc la relation avec les autres, la rencontre avec les autres. Et si je suis appelé à rencontrer les autres, alors il me faut quand même avoir des armes nécessaires ou des éléments nécessaires, sinon des convictions qui feront que je saurai vivre réellement en paix avec vous. Alors j'ai donné quelques points. Je me suis dit, si l'autre est avec moi pour bâtir la paix, comment dois-je me comporter avec lui? Sinon, comment moi-même dois-je me comporter envers moi-même pour que je sois efficace avec lui, sachant que justement, la paix, c'est avec l'autre. Alors, j'ai donné quelques points. Je me suis dit, dans le témoignage que j'ai déjà donné d'ailleurs, je me suis dit, pour que je sois en paix avec moi-même, avec les autres, il faut que j'apprenne à me décentrer, ne pas toujours attirer tout envers moi. Alors, pour les décentralisations personnelles, je me dis, ce qui vous arrive à vous peut m'arriver à moi. Vous voyez ce que je veux dire par là? Si la guerre est arrivée au Rwandais, par exemple, nous le voyons, depuis 90, ils se battaient. Et on se moquait de les Rwandais qui venaient aux études chez nous, on se moquait de vous êtes des bagarreurs. On n'avait pas compris que la guerre est dans le cœur de chacun. Voilà. Donc, me décentrer, ce qui vous arrive peut m'arriver à moi-même. Et si je me convainc de ça, alors je ne me moquerai jamais de personne. Voilà. Je ne me moquerai jamais de personne. Et moi-même, je ne me découragerai jamais. Parce que si ce qui vous arrive peut m'arriver, ce qui m'arrive peut vous arriver, c'est pour moi l'occasion alors de pouvoir sortir de mon lieu caché pour vous demander conseil sur ce que je n'arrive pas à faire. Voilà la décentralisation personnelle dans une attitude pour la paix. Après, j'ai trouvé pour la paix en moi et pour les autres qu'il faut être patient. Alors, la patience pour moi, c'est quoi? La patience, je vais vous lire ce que j'ai écrit, peut-être que vous comprendrez mieux. À toute rencontre, sûrement que les deux êtres sont différents. Les nouveaux venus, c'est-à-dire les petits étrangers devant moi, ne maîtrisent pas tous les codes du langage des autochtones. Par exemple, là, vous allez comprendre que je parle de moi quand j'arrive chez vous en France. Toute impatience découragerait. Toute incompréhension porte une certaine accusation négative et injustifiée. Car personne ne doit prétendre connaître, qu'il ne doit dire qu'il connaît tout, qu'il connaîtra tout. On est meilleur envers soi-même ni envers les autres. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que quand je suis arrivé ici chez vous, je le mets en directement avec une troisième écoute qui s'appelle écoute de l'autre. Quand je suis arrivé ici en France, ou nous les étrangers ici en France, la première question qu'on nous pose, c'est quand est-ce que vous rentrez chez vous? D'accord? Si vous n'avez pas encore fait, vous l'entendrez. Quand est-ce que vous rentrez chez vous? Alors, moi qui suis venu chez vous, par exemple, en fuyant la guerre ou en me sauvant, quand vous me demandez quand je vais rentrer chez moi, j'ai envie de continuer pour aller à Moscou peut-être, ou au pôle Nord. Voilà. Vous dire cela, c'est aussi vous rappeler que quand j'arrive, je vous trouve ici, vous ne me connaissez pas, vous avez sûrement des a priori sur moi, moi-même j'ai des a priori sur vous, donc on ne se maîtrise pas mutuellement, n'est-ce pas? On ne se maîtrise pas mutuellement. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut si nous voulons vivre en paix? Si vous voulez que je mange tout d'un coup du camembert, n'est-ce pas? Si vous voulez que je mange tout d'un coup du camembert, soit vous allez me tuer ou vous n'allez pas me comprendre. Tout à l'heure, à table, au repas, on nous a donné un beau dessert qui était bon. Il y avait du vin et puis il y a eu un beau gâteau. Heureusement, ce Français n'a pas à manger aussi. N'a pas pu à manger, j'ai vite compris. C'était quoi encore? C'était de la glace. Moi, je viens d'un pays chaud. Si vous me donnez de la glace, c'est pour me tuer. Alors, après, on m'a donné un fruit. Ils ont compris que chez nous, il y a des fruits. Voilà, donc, la patience, comme je vous l'ai dit. Donc, si quelqu'un est étranger et que je ne le prends pas comme il est, je vais finalement finir par l'assommer. Alors, si toutes les fois qu'il n'arrive pas à entrer dans ma culture, s'il faut que je me fâche, je risquerai de le mettre dehors. C'est peut-être ce que Sarkozy fait de temps en temps quand il nous met dans des avions pour nous ramener là-bas. Bon, mais ça, il y a une autre justification que je ne maîtrisais pas. Voilà, donc, moi, pour la paix, c'est la patience. Voilà, la patience qui n'est jamais décollé par l'écoute de l'autre. Si je parle de l'écoute de l'autre, c'est parce que je vous rencontre, je vous trouve riche en culture. Toutes les fois que vous me posez quelques questions que je ne comprends pas, vous risquez de vous fâcher, ça c'est entrer contre la paix. Mais vous savez qu'il ne faut jamais oublier et que moi aussi j'ai une autre culture. Voilà, par exemple, toutes les fois que je rencontre les gens, là j'ai commencé à prendre du poids, je pense que je commence à vieillir, j'étais un peu maigre, et les gens m'invitaient à manger, et quelquefois je me retrouvais en train de dire, mange, mange, comme ça tu vas prendre des forces, parce qu'on sait que tu viens d'un pays pauvre. Alors, quelquefois j'avais envie de vomir, de dire, je vous rends ce que vous venez de me donner. Voilà. Donc vous voyez que l'écoute de l'autre, la patience entre nous, ça fait que et ça donne un bon accueil, et c'est ça, le bon accueil, c'est la vie, et c'est la vie, c'est la paix. C'est ce que je voulais dire par là. Un autre point, qui serait peut-être le quatrième, ou le cinquième, serait ce que j'ai appelé, et après ce dernier que j'avais nommé, éviter le misérabilisme, Je finis par vous dire quelque chose qui nous concerne, nous étrangers ici. Chez nous, on travaille dur. Bon, dans ma région, évidemment, c'est une région riche, mais pour avoir des choses, il faut travailler pour. Dans beaucoup de régions chez moi, sinon même dans la mienne aujourd'hui, comme il y a la guerre, naturellement, ils sont pauvres. Tout le monde se trouve dans un camp de réfugiés. Donc, on ne travaille pas. Alors, lorsque ces gens arrivent ici, j'en vois certains autour de moi. Voilà, c'est ce que je vais appeler éviter le profitabilisme. Quand j'en vois ces gens-là qui sont sortis de là-bas, n'est-ce pas, à quelques pas d'un coup de machet toku, il mourait, mais il a été sauvé, il arrive ici. Alors, il est arrivé ici, il fait le malin. Pourquoi il fait le malin? Il est arrivé ici, vous l'avez bien accueilli, et il est bien tombé. Il y a une insertion, il y a l'argent que vous nous donnez pour s'insérer dans la société française. Chez nous, avoir un dollar, c'est un dollar par mois, si vous voulez. Alors qu'ici, vous nous donnez 300 euros, puisque de 300 au dollar, et je vois que ces gens-là se gonflent. Et ils profitent d'un système, alors tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire une formation, non. Tu ne peux pas trouver un travail, non. Pourquoi? Parce que je travaille ou pas travailler, j'ai de quoi et j'aurai mon salaire à la fin du mois. Voilà, ces gens-là, là aussi, je trouve que c'est un sujet contre la paix. Parce que le jour où vous allez vous fâcher, vous allez nous mettre encore dehors, ça sera de notre faute. Bon, mais comme vous ne vous fâcherez jamais, comme vous ne vous fâcherez jamais, le jour où lui-même il aura une famille, il n'aura pas peut-être les mêmes aides. Et s'il n'a pas appris à travailler, qu'est-ce qu'il deviendra? Il deviendra un voleur. Et vous verrez, vous allez commencer à acheter 4 cadenas à mettre sur une petite porte, sur les fenêtres, à cause de ces gens-là. Or, c'est dans cette pauvreté, comme il l'avait souligné, que la violence aussi naît. Une fois on est pauvre, on cherche à survivre et on fait la violence contre l'autre. Alors que lorsqu'on est dans une bonne situation comme aujourd'hui, et si on mettait tous nos efforts ensemble, si on travaillait ensemble, ça serait mieux que ça serait une occasion de nous auto-éduquer et de préparer l'avenir. Voilà ce que j'avais commencé à préparer quand j'ai répondu à la question que notre sœur m'avait envoyée par Internet.
Merci beaucoup, bravo pour cette intervention. Alors l'exercice est complexe parce que passionnant et complexe parce que vous voyez que les expériences que nous partageons sont très diverses, sont vécues à des niveaux très divers. Mais sans doute y a-t-il des choses en commun, vous avez dû le noter, entre ces démarches. On attend maintenant peut-être vos réactions et vos questions qui seraient intéressantes. Peut-être avez-vous besoin de précisions.
Je voulais demander à M. Allais comment il explique que le désarmement nucléaire ne soit pas plus populaire. Alors que, par exemple, le président Obama en a fait un point clé de sa politique, du moins de ses intentions, de faire un monde sans armes nucléaires. Donc, et les Russes ont immédiatement embrayé et dit qu'ils étaient d'accord. Or, en France, on n'en parle pas. Pratiquement, je pense que peut-être on est tellement content que grâce aux armes nucléaires, pendant la guerre froide, il n'y ait pas eu de guerre chaude, que on se dit c'est difficile de se passer de ces armes. Et ben, je ne sais pas quelle est la raison, mais personne n'en parle. Vous en parlez, Pascal Christie en parle, le mouvement ACAS, mais dans l'ensemble, dans la grande presse, on ne parle pas des armes nucléaires. Et le désarmement doit commencer par là.
Dany Allaire, vous me disiez même tout à l'heure, et c'était à votre intervention, que vous trouviez que la période était propice pourtant à ce mouvement-là.
Oui, enfin, pourquoi on n'en parle pas? C'est parce que enfin, je pense qu'il y a non-dire de la part des médias, et il y a une puissance enfin, de la part donc, du gouvernement par rapport à l'arme de dissuasion. Puisque c'est comme ça qu'on le présente, on ne parle pas d'armes nucléaires, on la présente en tant que dissuasion pour notre sécurité. Mais le problème, comme vous disiez, du moment de la guerre froide, ça a amené quoi? C'est-à-dire que ce problème de dissuasion de sécurité a mené à ce que les États-Unis faisaient une bombe, les Russes en faisaient une, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on est arrivé à non plus avoir, aujourd'hui, je crois que c'est 26 000 ogives nucléaires au monde. À cette époque-là, on est arrivé à 50 000 ogives nucléaires. Et on est arrivé à un point où justement on ne pouvait pas aller et on ne pouvait pas aller au-delà parce que l'argent qu'on met dans l'arme nucléaire, enfin dans l'armement nucléaire, on ne le met pas là à la satisfaction des besoins. Donc il y a un problème et puis enfin, au niveau donc, de cela. Donc déjà, donc, ce qui fait que ça a amené une limitation de donc, cet armement. Après, donc, c'est vrai qu'il y a eu des efforts. Bon, en 1968, le TNP est arrivé, il y a eu des négociations qui sont faites, il y a eu différents accords, surtout entre les deux grandes puissances, les USA et l'URSS à l'époque, qui ont amené donc à une réduction de l'arme nucléaire. Les derniers accords, c'était les accords START, qui arrivent à échéance à la fin de l'année. Et c'est pour ça que les USA, Obama et Medvedev se sont rencontrés et ont signé un accord pour justement limiter et aller à une réduction de leur potentiel militaire. Parce que bon, il y avait un accord qui se terminait. Donc il y a cette avancée. Il y a la décision le discours de Prague, principalement, qui a donc amené donc, le président Obama à dire qu'il voulait donc arriver au désarmement nucléaire en précisant que ça était le seul pays qui l'avait utilisé. Donc, étant donné le seul pays qui avait utilisé l'arme nucléaire, qui vont l'arme atomique à l'époque, nous sommes en droit donc justement de demander à ceux qu'elle ne soit plus utilisée, donc il n'y en ait plus. Donc c'est un point qui avance. Il a aussi mis en stand-by, c'est-à-dire il a arrêté le projet de bouclier antimissile qui devait être développé en Pologne et en Tchécoslovaquie. Chose qui est intéressante, qui est très forte, parce que le projet de bouclier antimissile a mené donc un développement nucléaire de puissance et une modernisation des armes, avec la guerre des étoiles. Donc on est sur une avancée. Malheureusement, c'est que ces avancées-là, elles ne sont pas relayées. Elles sont relayées que par les associations. Et les associations, on n'a pas voix de presse, quoi. C'est-à-dire qu'on nous fait. Il y a un mois, on a tenu les journées du désarmement nucléaire à Caen. Personne ne le savait. Au niveau de la France, on n'a pas vu la télé. Enfin, au niveau de l'information nationale, je veux dire, on n'a pas parlé. Localement, sur Caen, les copains qui se sont organisés, enfin les organisateurs, ils se sont battus avec la presse pour pouvoir avoir 4 lignes. Donc, et ça se passait à Caen. On était 160 à discuter pendant 2 jours sur le désarmement nucléaire, la campagne ICAN. Donc il y a un locus de complet là-dessus. Donc si nous on n'est pas en mesure donc, de développer l'information, il y a toutes les associations. Je disais 57 associations dans cette campagne, il faut que l'on popularise, il faut distribuer des tracts, etc., passer des articles, et pour manière à ce que ce soit pris en compte par les citoyens, quoi. Donc, d'où la campagne de signature, parce qu'il y a quand même Michel Rocard, il y a Alain Juppé, qui a pris des positions là-dessus, ils ont pris des positions, il y en a un autre aussi, un ancien général qui a pris des positions par rapport à l'armement nucléaire. Il y a un appel des scientifiques. Il y a donc énormément de choses qui poussent vers justement ce désarmement-là. Et je crois que là, comme je disais tout à l'heure, quand on était entre nous, on est dans un moment où il y a la possibilité d'aller vers justement cette abolition de l'arme nucléaire en apportant le soutien à la convention qui a été déposée à l'ONU par la Malaisie et le Costa Rica. C'est une convention d'abolition de l'arme nucléaire qui donne un calendrier bien précis, année par année, une démarche pour justement qu'en 2012-2015, il n'y ait plus d'armes nucléaires. C'est très proche. C'est vrai que depuis le temps qu'elle est déposée, donc ça ne sera pas 2015, mais en 2020, si on applique aujourd'hui la convention, cette convention internationale sur l'élimination des armes nucléaires, en 2020, il n'y en a plus. Le calendrier est fait. Maintenant, il faut que l'ensemble des pays, l'ONU, et principalement les grandes puissances, c'est-à-dire les 5 puissances nucléaires officielles, l'acceptent. C'est là le problème. Et l'enjeu, il est là. C'est donc tout l'enjeu de la campagne, et c'est tout l'enjeu jusqu'en mai 2010, la conférence de révision du TNP. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu.
Oui, vous avez bien répondu.
Oui, je voulais poser à Michel Massé une question sur la formation. quand vous formez les adultes, vous formez ceux qui vont former les enfants ensuite. Donc c'est vous, association, qui rentrez dans les collèges et les lycées, ou c'est les professeurs eux-mêmes qui décident de se former entre eux, je sais pas, avec vous, et qui forment ensuite les enfants, ou vous ne formez pas les enfants dans les écoles, si vous êtes habilité, vous pouvez le faire.
On pourrait le faire, mais on ne le souhaite pas. Enfin, si vous voulez, nous, notre point de vue, c'est plutôt de former les adultes pour que se crée un noyau dans l'école qui fonctionne. Parce que nous, si on vient, qu'on forme des enfants et qu'on repart, ça ne marchera pas. Parce que ces jeunes qui sont formés, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de reconnaissance. Il faut vraiment que ce soit un projet de l'établissement et qu'il y ait plusieurs, pas tout parce que c'est difficile d'avoir tout le monde, mais qu'il y ait plusieurs personnes de l'établissement qui soient partie prenante du projet. Donc concrètement, comment ça se passe? En général, c'est une école, un lycée, un collège qui, d'une manière ou d'une autre, a entendu parler de notre association. C'est quelquefois les professeurs qui se baladent, hein, qui sont mutés et qui donnent l'information. Et à ce moment-là, ils font une demande d'un stage interne et on se déplace dans l'établissement. Et très souvent, on y retourne au bout d'un an, même à ce moment-là bénévolement, pour voir où ils en sont, pour répondre à leurs questions. Moi, les lieux où j'ai été avec une amie, on a formé des enseignants, j'ai tous les mails et je suis en lien avec, en général, une personne de chaque endroit. Qui me dit comment ça se passe, et c'est très important pour nous le suivi, quoi, de savoir si ça marche, comment ça fonctionne, s'ils ont besoin d'aide, etc. Et alors sinon, on a quand même un système de ce qu'on appelle les stages externes, qui là sont des stages, en général il y en a deux par an, quelquefois trois, qui s'adresse à des personnes en dehors d'une structure comme ça, ou qui veulent, quelquefois ce sont des personnes qui viennent d'autres pays aussi, et qui ont envie de faire ça dans leur pays, ou des gens qui ont des contacts avec des jeunes, mais qui ne sont pas forcément dans la structure d'un lycée ou d'un collège.
Actuellement, le réseau, c'est une centaine d'établissements.
Disons qu'il y a une centaine d'établissements dans lesquels il y a des médiateurs.
Et 35 000 enfants depuis...
35 000, on avait fait ce calcul-là en 2008. On ne l'a pas refait depuis. Donc en 2008, on estimait qu'il y avait à peu près 35 000 enfants qui avaient été formés depuis les débuts de l'association. Dans toute la France.
Avant de vous donner la parole, je crois que Dani voulait ajouter quelque chose sur...
Et par rapport au nucléaire, quand on dit qu'il y a des choses qui avancent. Aujourd'hui, le 7 novembre, ça y est, c'est une dépêche, hein, je l'ai eu comme ça par Internet, mais je ne l'ai pas vu dans la presse. On apprend que les Pays-Bas et l'Allemagne vont s'associer dans un plaidoirie en faveur d'un monde sans armes nucléaires. Dans un premier temps, donc, ils se sont réunis à La Haye. Dans un premier temps, ils demandent aussi à ceux que les armes de l'OTAN, les armes nucléaires de l'OTAN, ne soient plus sur leur territoire. C'est-à-dire que aujourd'hui, le pays le plus nucléaire en Europe, c'est les USA, avec les armes de l'OTAN. Donc ils demandent à ceux que... Donc ils font un plaidoyer pour un monde sans armes nucléaires, Pays-Bas et Allemagne, et demandent l'évacuation des armes de l'OTAN. Il y a un sénateur socialiste belge aussi qui a lancé une pétition sur Internet pour interdire les armes nucléaires, c'est-à-dire pour un monde sans armes nucléaires. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent, mais ça, on ne l'apprend pas si on ne le fait pas circuler par nos propres moyens. Quoi. Ce que je voulais simplement rajouter.
Voilà, moi, je voudrais changer le sujet un peu. Je voudrais remercier le père Gaston parce que vous m'avez beaucoup touché. On a des cultures différentes et c'est embêtant quelquefois, mais quand on a compris que Dieu est en nous, c'est ce que vous avez dit, quand on a compris que le cœur profond de chaque être humain est amour, eh bien, si on comprenait ça, si on apprenait ça à notre jeunesse, on dépasserait les problèmes de culture, les problèmes de violence, de haine qui nous habitent tous, Moi, ce que je voudrais utiliser ce soir, c'est le mot amitié. Je pense que nos peuples, et en particulier notre jeunesse, nos jeunesses, sont avides d'amitié. Et malheureusement, je ne